Moi j'aime bien voyager, voyager intelligent. J'apprends les langues des contrées pour parler avec les gens. Hey.
Itinérance, une déambulation proposée par Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Pour parler avec les gens.
Bonjour, bonjour à tous. Aujourd'hui, dans Itinérance, nous allons aller à la découverte ou la redécouverte d'une ancienne spécialité de Nîmes, le cergé de Nîmes, avec le directeur des ateliers de Nîmes, Guillaume Sagot. Bonjour.
Bonjour Sylviane.
Alors, les ateliers de Nîmes, moi je voulais intituler l'émission La Toile de Nîmes, D-E-N-I-M, et non, vous m'avez dit, la vraie terminologie, c'est le cergé de Nîmes comme la ville. Donc, c'est important, cette différence. Vous, ce qui est votre spécificité, c'est le cergé.
Alors, historiquement, oui, c'est le cergé, effectivement, qui a fait la gloire de Nîmes. Faut savoir que le cergé, c'est une armure du tissage, et la toile, c'est une autre armure de tissage.
Alors, soyons précis.
Voilà.
Alors, vous savez tout ça par cœur. Je vois que vous fêtez en 2024 vos 10 ans d'existence. Après diverses activités, comment on en vient au cergé de Nîmes alors qu'on a fait plein de choses avant?
En fait, ça vient plus par passion. C'était quelque chose que, d'un point de vue historique, qui m'intéressait beaucoup. Et j'ai toujours été passionné par le de Nîmes, par les jeans, etc. Donc c'est... Et puis voilà, le côté aussi du patrimoine nîmois était important pour moi. C'est vrai que j'ai un parcours, on va dire, historien. Sur cette partie-là, c'était quelque chose qui m'importait beaucoup. Et aussi de refaire valoir un savoir-faire local.
Voilà. Donc à un moment, vous vous êtes dit, c'est maintenant ou jamais.
C'est ça, c'est un peu le déclic.
Non, plus que 10 ans, parce que je pense qu'avant de vous décider, vous avez réfléchi, vous avez fait...
Alors, j'ai réfléchi en 2000... avant, mais on a commencé vraiment en fait, à enclencher le projet à partir de 2013. Donc toutes les démarches administratives de création d'entreprise à partir de 2014. Après, c'est un projet qui a pris beaucoup de temps aussi, puisque c'est quelque chose qui n'était pas de... Moi, je n'étais pas du tout de cet univers textile, ni de l'univers de la mode. Ça a toujours été une passion, mais les étapes, en fait, ont été nombreuses. Et il a fallu effectivement attendre en fait, presque 2021 pour pouvoir produire nos propres cergés de Nîmes.
C'était aussi un défi que vous vous lanciez à vous-même. Ce n'était pas gagné d'avance. Il y avait une part de risque.
Inconsciente, parce qu'en fait, c'est vrai que j'étais pas du tout conscient de la difficulté du projet, de la vie.
Heureusement, peut-être.
Je dis souvent heureusement, parce qu'en fait, si j'avais été conscient de la difficulté qu'il y avait autour de ce projet, j'aurais peut-être réfléchi vraiment plus d'une fois à enclencher ça.
Bon, il y a des impulsions qui sont assez bonnes tout de même.
C'est ça. Et puis bon, après, au fur et à mesure, j'ai eu des rencontres et ça, tout ça, ça m'a permis en fait de pouvoir avancer. Et c'est en avançant qu'on garde effectivement, on va dire, de l'espoir. Et surtout, en fait, quand on voit avancer son projet, on commence à avoir de la fierté, effectivement.
Alors, vous ne regrettez pas.
Non,
ça a été difficile, mais vous ne regrettez pas.
C'est
Alors,
ça.
Vous n'êtes pas tout seul, vous avez deux associés.
Oui, exact.
Et puis, quand j'ai visité les ateliers, il faut faire des demandes spécifiques, parce que sinon, vous seriez toujours ennuyé dans votre travail. Il y avait un ancien... comment on va dire, un ancien technicien qui était là, qui est un peu l'âme aussi de l'atelier, non?
C'est ça, c'est Alain Beauchemin, en fait, que j'ai rencontré il y a maintenant 5 ans, qui m'a permis effectivement d'accélérer vraiment sur la partie technique du tissage, à savoir faire les bons choix, parce que souvent... Je les faisais pas forcément, en tout cas sur l'achat des machines. Mais Alain m'a permis en fait vraiment de pouvoir accélérer sur la partie production, tissage.
Donc, historien, on est attaché, je suis également historienne, donc c'est pour ça que je dis nous. Nous sommes très attachés justement à cette valorisation du patrimoine, que les éléments ne disparaissent pas. Et ça, vous y teniez vraiment. Et c'est votre singularité. La fabrication, vous la faites comme on la faisait quand?
Alors, le cergé de Nîmes, comme on fait, en fait, ne ressemble plus vraiment au cergé de Nîmes initial, celui qui était tissé au XVIe siècle. Nous, on a essayé de reprendre un peu les techniques qui étaient faites dans les années 30-40 à peu près.
Au début de la mécanisation.
Voilà, en fait, au début, en fait, de production qui va être un peu plus, pas dire industrielle, mais presque. Nous, nos techniques de fabrication, c'est vrai que en tout cas, on essaie de faire attention à l'utilisation d'eau. C'est quelque chose qui...
Très écologique.
Voilà. En fait, c'est quelque chose même aussi qui allait de soi, parce qu'en fait, c'est du bon sens. C'est-à-dire que dans l'industrie classique maintenant, les industriels utilisent beaucoup d'eau sur la fabrication de la toile. Après, il y a aussi une utilisation d'eau sur la fabrication du jean, mais sur la fabrication de la toile, il faut savoir que la totalité des fabricants de toile, ils mettent un enrobage de colle sur les fils. Cet enrobage de colle, donc en fait, donc il faut utiliser de l'eau pour pouvoir en fait dissoudre la poudre.
Bien sûr.
Ensuite, après, une fois que la toile est tissée, il y a toujours cette colle sur les fils. Et cette colle-là, en fait, il faut la laver. Donc en fait, les industriels.
À nouveau de l'eau.
Et il y a environ 20 000 litres d'eau qui sont utilisés par tissage.
Oui, donc là, vous, pas d'enrobage de colle.
Voilà, pas d'encollage, pas de désencollage. Et en fait, on a trouvé une technique, c'est juste de retordre des fils entre eux, qui nous permet. Donc on a deux fils à la place d'un seul, et ça nous permet d'avoir un fil qui est beaucoup plus solide sur le métier à tisser. Alors après, il y a plein d'autres inconvénients, mais bon, c'est qu'en fait, c'est difficile.
Là, on va aller dans le positif, là.
Bon, oui, c'est des inconvénients qui sont... Qui
peuvent se résoudre.
Voilà,
en fait.
Ça se résout, mais je préfère effectivement passer beaucoup plus de temps sur la machine à ranger les fils plutôt que d'utiliser 20 000 litres d'eau. 20 000 litres d'eau, c'est quasiment une piscine en particulier. Oui. Donc
il y avait dans votre projet aussi une volonté écologique. On sait que les industries textiles, quand on voit les photos de la rue de Lagos avec l'eau qui passait, toutes les villes textiles étaient des villes près de l'eau. C'est assez évident. Donc cette continuité tout de même, et puis vous en avez beaucoup parlé, vous avez prononcé le mot jean. Est-ce que l'acheteur d'un de vos jeans sent qu'il y a une différence entre votre Sergé et puis les autres jeans?
En fait, la principale différence, ça va être au niveau vraiment de la main. En fait, on a une main qui est ferme, qui est lourde sur nos toiles, puisqu'on utilise un grammage qui est élevé. Et cette différence, ça va se faire aussi sur le long terme. C'est-à-dire que comme nos fils sont doublés,
c'est plus résistant.
Voilà, ça va être plus résistant, puisqu'en fait, on s'imagine vraiment le jean, il y a des frottements avec l'utilisation. Et un fil qui est simple, le frottement va l'abîmer plus rapidement. Tandis qu'un fil qui est double, le frottement sera... Bon, en tout cas, il y aura besoin de plus de frottement et plus longtemps pour l'abîmer.
Oui, mais on achètera moins de jeans, alors.
C'est un petit peu aussi dans l'air du temps. C'est-à-dire qu'on préfère maintenant, en tout cas, on recommence à essayer d'acheter mieux, mais moins. Ça a commencé à se faire avec la nourriture. On le voit avec l'achat, par exemple, de la viande. On achète de la viande de meilleure qualité, qui est meilleure pour
la
santé.
On en mange moins souvent.
C'est un petit peu pareil avec les vêtements. C'est-à-dire qu'on essaie de choisir des pièces qui sont intemporelles, qui sont durables, qui ne passent pas de mode et qui sont aussi beaucoup plus qualitatives. Et puis, il y a aussi cette idée qu'une pièce de vêtement, quand elle est abîmée, au lieu de l'acheter, on la rapièce et ça repart en fait après pour plusieurs années de.
Je pense à tous ces jeunes qu'on voit avec des jeans déchirés, mais volontairement.
C'est ça aussi.
C'était une petite boutade annexe. Et puis, je pense que vous vous diversifiez aussi sur les modèles. La mode change, plus ou moins slim, plus ou moins large. Puis les couleurs, quand j'ai visité votre atelier, j'étais très intéressée justement par vos fils, parce qu'au point de départ, il y a l'achat de fils.
C'est ça, oui, il y a l'achat de fils. Nous, ce qu'on fait, c'est que on achète nos fils en Turquie, sur du coton turc, c'est du coton bio. En fait, on est labellisé sur du coton bio. C'était vraiment aussi une condition en fait, de notre cahier des charges. Et donc, dans ces fils, on a le fil écru, qui nous sert en fait pour tisser nos toiles écrues et pour le tissage du fil de trame. Et pour le reste du fil, c'est du fil qui est teinté à l'indigo, qui est aussi teinté en Turquie sur des machines.
Et parce que dans les autres fabricants, on achète où le fil?
En fait, la plupart des fabricants maintenant achètent du fil soit en Turquie, qui est un des plus gros fournisseurs, soit en Inde, soit en Chine, soit au Pakistan. Donc nous, on a essayé de faire ça en fait plus proche en Turquie. Il faut savoir que des filatures de coton en France, il y en a plus. Il doit y en avoir une, mais c'est vraiment en fait de l'artisanal. et ils font pas vraiment en fait nous ce que l'on souhaitait. Nous, on commande du fil spécial, puisqu'en fait, on le fait faire retordre.
Oui.
On a aussi ce qu'on appelle la dimension aussi du fil. On achète quand même aussi du fil, du gros fil, puisqu'en fait, c'est utilisé pour du sergé. Et
ensuite, on voit ces grosses bobines impressionnantes.
C'est ça. Bon, un jean, ça se fait, la qualité du jean se retrouve forcément à la base dans la qualité du coton et dans la qualité du fil. Mieux sera le fil et mieux sera la toile. Et ensuite, après, avec ce fil-là, on travaille avec une usine de teinture qui fait que de l'indigo. L'avantage, c'est qu'en fait, c'est des machines qui font 20-30 mètres de long où on fait où les industriels mettent les fils et c'est des fils qui vont baigner dans plusieurs bains d'indigo. Ça s'appelle la teinture à la corde et ça permet en fait une uniformité sur tout le long du fil. Donc par exemple, nous, nos bobines font à peu près 12 km. Donc en fait, sur ces 12 km, il y a un fil qui est unité.
Et ça pèse combien, hein, une bobine de...
Une bobine de fil, on est à peu près sur du 1 kg et demi à peu près.
Donc quand vous disiez que c'était un défi que vous étiez lancé, vous étiez tout de même au courant de... Enfin, vous aviez des objectifs très précis, vous aviez un cahier des charges très précis. Est-ce que vous aviez défini le nombre de pièces que vous alliez fournir? Ou est-ce que maintenant vous fêtez vos 10 ans? Racontez-nous un peu votre production au fil des années, puis après on va parler des métiers, parce que c'est vrai que les métiers, c'est quand même aussi...
C'est le principal.
Le principal. Alors, vous étiez parti sur quelle production, point de départ?
Alors au départ, à vrai dire, j'étais parti, j'avais pas exactement l'idée. Puis en fait, nous, quand on a commencé par assembler nos jeans en France, mais avec de la toile italienne. Donc ce qu'on expliquait vraiment en fait à nos clients, on leur disait voilà, bon, nous pour l'instant on fait fabriquer nos jeans en France avec de la toile italienne, mais un jour on tissera nous-mêmes notre toile à Nîmes. J'avais fixé à peu près le calendrier sur 7 ans. En fait il fallait commencer en fait par quelque chose et c'était un domaine que je connaissais pas du tout. Il m'a fallu quand même presque 3 ans à peu près d'apprentissage. Donc avant, il a fallu aussi trouver les machines, etc. Et puis surtout gagner des sous pour pouvoir les acheter. Donc en fait, grâce à ces premières productions, on a pu commencer à avancer, rentrer dans un réseau de fabricants et d'un réseau textile. Et j'ai commencé à pouvoir en fait réfléchir aux futures acquisitions des machines, à trouver dans quel endroit aussi sur Nîmes on pourrait tisser, parce que même des locaux professionnels, il n'y en a pas, ça ne court pas les rues.
Donc c'est sur la rue Montory, c'est ça?
Voilà, rue Montory. Alors là, bon, j'ai eu beaucoup de chance effectivement de trouver ce local parce qu'il est à proximité du centre-ville, je peux venir à pied.
Quand on y va, on le repère vite. Moi, les machines étaient en train de tourner, donc c'est vrai qu'on se fie au bruit.
C'est ça, on nous reconnaît au bruit, pour venir les yeux fermés
et on va venir donc à ces machines. Donc la production au début, vous ne saviez pas trop?
En fait, c'était une production parce que c'est vrai que j'avais quand même pour l'objectif de tourner à peu près à 2-3 000 jeans assez rapidement pour pouvoir en fait rentrer vraiment dans nos frais. Et puis surtout, en fait, pouvoir petit à petit en fait, monter les étapes. C'est-à-dire qu'il a fallu quand même un certain nombre d'années pour pouvoir structurer la société, structurer le savoir-faire et structurer en fait, vraiment... tous nos fournisseurs, parce que ça va pas se faire en fait en un jour de trouver vraiment les fournisseurs, de pouvoir avoir en fait une bonne base.
Vous avez eu des mauvaises expériences? Vous avez dû changer un petit peu?
Oui, beaucoup.
Beaucoup. La question qu'il ne fallait pas poser.
Non, mais après c'est des choses en fait qui viennent au fur et à mesure. La principale erreur qui avait été faite, mais finalement qui a été une erreur, mais c'est grâce à celle-là en fait que j'ai pu rencontrer Alain, c'est d'avoir acheté des métiers à tisser qui ne tournaient pas. Le vendeur m'a dit avec ces deux métiers à tisser on peut en faire un, il suffit de prendre des pièces détachées. Alors Alain m'a expliqué que c'est un petit peu comme une voiture, on n'achète pas une voiture qui ne roule pas.
Donc, c'est bien dit,
c'est du bon sens, hein, et c'est vrai que après c'est vrai que c'était une des erreurs qui nous a fait en fait le plus de mal, on va dire.
C'est-à-dire quand on s'y connaît pas, on peut faire des erreurs et c'est comme ça que l'on apprend, et ça représentait un investissement très lourd. Enfin, c'est peut-être indiscret, mais
en fait ça représentait pour notre société à l'époque en fait un investissement assez lourd, puisqu'en fait il y avait à peu près 20 000 euros qui ont été dépensés dans cette problématique, effectivement.
Oui. Pour
rien, effectivement.
Alors, vos métiers actuels, moi j'ai été très impressionnée, parce que j'ai habité longtemps le Nord, et entre les mines et le textile, j'étais tout de même très au courant de tous ces métiers. J'avais visité les anciennes usines textiles à Roubaix, à Tourcoing, où il y avait une centaine de métiers. Et là, il y en a deux grands.
Deux grands, voilà, en fait.
Mais impressionnant.
C'est des métiers à tisser. Alors, il y en a un qui date de 91 et le dernier, il date de 2023.
Ah, c'est donc, un tout petit jeune. Alors, comme nous parlons de jeans, je vous ai demandé, comme souvent à mes invités, de choisir une chanson pour illustrer. Donc, on est dans le bleu italien, alors que le jean, on ne va pas parler des origines. Donc, vous avez choisi, dites-moi, le chanteur et le nom de la chanson en italien.
Alors, le chanteur, c'est Domenico Modugno, et le nom de la chanson, c'est Nel Blu di Pinto di Blu.
En fait, c'est l'ancêtre de Volare Volare.
C'est ça, voilà, ça va parler en fait à beaucoup de gens, puisqu'en fait, c'est la version originale de celle des Gypsy Kings.
Voilà, le bleu. Mais nous verrons qu'il faut se diversifier maintenant dans d'autres couleurs. Et nous écoutons en rêvant à la toile de jean, à ces métiers dont vous allez nous parler plus en détail après.
Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù, una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, cantare, oh, 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 nel dipinto di blu, felice di stare lassù.
Alors sur Radio Alliance Plus, nous retrouvons Guillaume Sago donc pour continuer de nous parler de cette passion, de cette folie, je ne sais pas, mais au moins de cette très belle aventure de produire ce Serge de Nîmes. Et donc on en revient à ces deux grands métiers. C'est impressionnant, hein, ils font quelle dimension, quelle longueur, ils font 7-8 mètres au moins facilement, même plus peut-être.
Le métier à tisser en lui-même fait à peu près 4,50 m, 5 mètres les deux à peu près.
En fait, c'est la largeur de la toile, c'est ça.
En fait, la largeur de la toile, en fait, on est sur du 1,60, 1,60 m, mais après, en fait, à ça, il y a la place, en fait, ce truc technique, mais des ratières, etc., en fait, qui viennent rallonger le métier, plus l'espace pour y poser les bobines de tram. Donc, effectivement, on est à peu près sur du 5-6 mètres.
Ah oui, mais moi, 5, ça me semble, quand on arrive sur le haut, ça nous semble très impressionnant.
C'est gros, et puis c'est des machines, en fait, qui pèsent 4 tonnes. Ouais. Donc, quand il a fallu les installer dans l'atelier, ça a été une partie de plaisir.
Oui, puis c'est assez étonnant et c'est donc Alain là est venu et il y a une maintenance importante, je suppose, quand on voit. Enfin, moi, je suis restée une petite heure quand on voit comment ça tourne, comment ça, toute cette mécanique. Il y a beaucoup d'incidents ou maintenant ça tourne, comme vous dites.
Alors maintenant ça tourne. En fait, le plus important, c'est vrai que c'est la mise en route. La mise en route du métier à tisser, c'est celle qui demande le plus de temps. Il faut quand on, par exemple, on a vidé tous les fils, il faut remettre des nouveaux fils, donc c'est rechanger l'ensouple, c'est la partie cylindrique où il y a à peu près 700-800 mètres de fils.
Donc ça se fait manuellement ou
ça se fait manuellement et ensuite
on pense après... toujours à petites ouvrières textiles là qui étaient embauchées à 8-10 ans parce qu'elles avaient des toutes petites mains.
C'est ça, c'était pratique aussi pour nettoyer les métiers à tisser. Mais bon.
Non, mais et là, après, vous avez combien d'employés ?
Alors, sur la partie atelier, en fait, donc moi, je suis seul et j'ai une alternante, en fait, qui s'occupe aussi du suivi et qui apprend, en fait, le métier, parce que c'est vrai que le but, c'est de pouvoir, en fait, le transmettre. Et puis, en fait, donc, j'ai deux vendeuses au magasin.
Ouais. De rue Auguste Pellet, hein, dans l'Écusson. Et vous commencez à être bien connu, je crois. Hein. Et puis, vous vendez aussi par Internet, vous vendez...
Alors, on a les trois canaux de distribution. On a notre magasin en nom propre au centre-ville de Nîmes. Mmh. On travaille avec des distributeurs en France. On travaille, par exemple, avec la Samaritaine et le Printemps, qui sont à Paris. Mmh. Plus une dizaine d'autres, en fait, hein, surtout dans le Sud. Et on a notre site Internet aussi, qui nous sur lequel on peut proposer des produits à vendre dans le monde entier.
Et Atelier de Nîmes, donc c'est tout simple, Atelier de Nîmes.
Avec un S.
Avec un S.
Atelier.
Et quelle est la part de la boutique, par exemple, ou la part dans vos ventes?
Là, actuellement, bon, on est plus sur le magasin, en fait, qui nous permet, en fait, de tourner un peu plus. Et après, sur 50-50, à peu près, sur Internet et chez nos distributeurs.
Donc, vous devez être très fier avec vos associés, tout de même, que je redis Toile de Nîmes, pardon, le Sergé de Nîmes, mais c'est vrai que ce n'est pas rentré dans le vocabulaire, le Sergé de Nîmes.
Sergé, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez technique, comme c'est le nom d'une armure. D'ailleurs, par convenance, on dit toile, puisqu'en fait, c'est ce qui ressemble le plus pour au début, je dirais que le Sergé, ça ne me parlait pas forcément. Mais d'un point de vue technique et historique, le Sergé. Mais bon, après, le toile, on n'est pas des ayatollahs.
Non, mais c'est vrai que beaucoup de gens, le jean de Nîmes, on a tellement dit, mais non, ce n'est pas une invention américaine. Mais non, ça vient de Nîmes, que pour ça, c'est important.
Alors, le jean, ça reste américain, puisque c'est le nom du vêtement. Mais le de Nîmes, le Sergé de Nîmes, ça c'est français,
ça,
et c'est nîmois.
Donc, j'aurais dit, très fière tout de même de remettre cela dans l'activité. Et comme je disais tout à l'heure, il faut tout de même un peu le moderniser, mais vous travaillez aussi avec des stylistes, qu'est-ce que vous proposez comme modèle?
Alors nous, en fait, on travaille directement avec les bureaux d'études des ateliers avec lesquels on travaille. En fait, nous, on propose des produits qui sont intemporels, classiques. On étudie toujours les coupes pour pouvoir coller à la mode. Là, en ce moment, on est beaucoup plus sur du pantalon large.
Ouais. Le retour des pattes d'éléphant. Pas tout à fait.
Pas tout à fait, mais c'est quand même parfois...
La patte d'éléphant était tout de même serrée au niveau du genou.
C'était serré, voilà. C'était du slim et pas de def. Là, en fait, on va être plus sur du pantalon qui va être typé, pas trop baggy, mais qui reste quand même assez large, et sur du flair.
Du
flair.
Ça veut dire
flair, en fait, c'est jambes larges.
Large, ah, d'accord.
Voilà, autant pour moi.
Bon, on a tous un vocabulaire technique. Et au niveau des hauts, des chemises, tout ça, vous en faites aussi?
Alors, pour l'instant, on n'en fait pas encore de chemises, parce qu'en fait, ça demande des toiles qui vont être plus légères. Et actuellement, sur nos métiers, on a des toiles qui sont plus lourdes. Ouais. Donc, on y réfléchit avec l'acquisition d'un troisième métier à tisser, peut-être un quatrième aussi.
Il faudrait changer de lieu, d'atelier, non? Ça peut s'étendre?
On a récupéré, en fait, deux parcelles de cet atelier. Donc, on a le devant et derrière, en fait, qui peut accueillir encore au moins 4 ou 5 machines.
Alors, pour visiter vos ateliers, je sais que vous aviez ouvert au moment des Journées du patrimoine.
Ça
avait été pris d'assaut.
Oui, on a été surpris, effectivement.
Donc, bon, s'adresser à la boutique ou sur le site, et puis peut-être venir à plusieurs pour ne pas vous déranger trop souvent. Et j'étais peut-être un peu rapide sur vos explications des métiers. Quel rapport vous entretenez avec ces métiers? Pour vous, ce n'est qu'un outil de travail, ou au contraire, c'est toute une... On a l'impression qu'il y a comme un amour de ces métiers, comme une...
En fait, c'est vrai qu'il y a un côté aussi passion, parce que c'est vrai que au tout début, je me suis beaucoup énervé sur eux, parce qu'en fait, j'avais du mal à mettre les fils, à y repasser, s'il fallait repasser des fils. En fait, j'ai passé des journées, des mois, en fait, à essayer de remettre des fils au tout début.
Découragé.
Découragé. Heureusement qu'Alain était là, en fait, pour me dire, tiens, il faudrait que tu fasses ça. Mais c'est vrai que ça a été beaucoup plus sur ce côté un peu passionnel, même presque comme si t'étais des collègues de travail. mais c'est vrai que oui, ça fait partie aussi de mécanique, qui demande quand même aussi d'entretien. Un entretien régulier, que ce soit pour les nettoyer, pour les regraisser, pour refaire, en fait, les, les réglages, puisqu'en fait, c'est des réglages qui se refont à peu près toutes les semaines pour avoir en fait une toile en fait la plus...
Oui, que la tension soit régulière.
C'est ça.
Oui, oui, c'est assez fascinant hein, quand on reste peu de temps, mais quand on voit, et puis il peut y avoir des gros incidents, il peut y avoir des noms, vous n'en avez pas eu, je croise les doigts.
Moi aussi, je croise les doigts, je n'ai pas eu. En fait, c'est vrai que quand l'entretien est régulier et bien fait, parce que c'est vrai qu'on ne s'imagine pas du tout, et même moi, en fait, je ne m'imagine pas du tout le travail qu'il y a en fait, sur le tissu. Un tisserand en fait a plusieurs métiers en un, c'est-à-dire qu'en fait il va faire du tissage, du nouage, c'est quand il faut renouer les fils. Il y a toute la gestion de stock qui est à côté. Il y a en fait beaucoup de travail en fait sur le tissage et ça met en fait beaucoup de temps sur la machine parce qu'on s'imagine que finalement c'est une machine donc en fait c'est elle qui tisse toute seule, mais il y a quand même du travail derrière.
Bien sûr, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Le plus important ce sont les métiers, mais bon, il y a tout ce qui est en amont, tout ce qui est en aval, et donc c'est une longue chaîne en fait de travaux. Et c'est il y a plusieurs corps de métier entre celui qui cultive le coton et puis celui qui porte le jean.
C'est ça, c'est ce qui nous a mis en fait, ce qui nous a pris beaucoup de temps à réaliser, c'est-à-dire que de la recherche de nos fournisseurs jusqu'à la recherche en fait de nos revendeurs, il a fallu en fait beaucoup de temps pour pouvoir en fait tout aligner ces points sur cette chaîne de valeur. Et donc c'est ça en fait qui nous a pris effectivement j'allais dire
plusieurs
presque
années.
Au moins 8 ans.
8 ans, oui. Donc, votre patience est récompensée. Les 10 ans 2024, beaucoup d'autres projets. Et là, votre production, elle est de combien de, je ne sais pas combien, si vous allez dire en métrage, si vous allez dire en nombre de pièces
En nombre de pièces, on est à peu près sur du 4500 pièces par an, à peu près. Là, l'objectif, c'est de ces prochaines années à réussir à atteindre les 20 000 pièces. Parce qu'en fait, les deux métiers à tisser qu'on a peuvent atteindre 20 000 pièces, en tout cas l'équivalent de 20 000 pièces sans problème.
Bah écoutez, bravo à vous, bravo à vos associés, bravo à toute la chaîne de ce travail et que... Félicitations.
Merci beaucoup. C'est gentil de m'avoir invité ici.
Restez avec nous sur Radio Alliance Plus.